Transistor.
À l'école, l'élève doit être absolument protégé.
Transistor.
Web. L'émission qui traite des handicaps et différences invisibles à travers le vécu d'étudiantes et d'étudiants. Dans le langage courant, quand on parle de handicap, c'est souvent l'image d'une personne en fauteuil roulant qui nous vient à l'esprit. Dans la réalité, 80% des handicaps sont ce qu'on appelle des handicaps invisibles. Autrement dit, des handicaps qui ne se lisent pas sur le visage, qui ne se devinent pas au premier regard. Et c'est justement de ces handicaps-là dont on va parler. Avant de continuer, je voulais m'excuser d'avance pour la qualité sonore de cet épisode qui, pour des raisons liées à la crise sanitaire actuelle, n'a pas pu être enregistré en studio. J'espère que vous profiterez quand même de ce moment en la compagnie de mon invité et moi-même. Aujourd'hui, on accueille Yona, étudiante à l'ENS de Lyon en philosophie et qui est en pleine procédure diagnostique d'autisme. Bonjour Yona.
Bonjour.
Pour commencer, je voudrais rappeler la définition de l'autisme, ou plutôt du trouble du spectre autistique, donc on appelle TSA, et c'est comme ça qu'on appelle l'autisme aujourd'hui. D'après le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le TSA, c'est deux critères principaux. D'une part, des déficits persistants de la communication et des interactions sociales observées dans des moments variés, ainsi que le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités. Là, ce que je viens de dire, c'est la définition officielle du DSM. Yona, est-ce que tu pourrais expliquer avec tes mots ce qu'est le TSA ?
Le terme que j'utilise assez souvent, c'est être dans son propre monde. Je suis dans mon propre monde. Il y a un mot que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un mot maori, qui vient de... Du coup, maori, c'est la Nouvelle-Zélande. Et qui décrit des personnes qu'on pourrait diagnostiquer autistes, en fait, justement, littéralement, elles sont dans leur propre temps, leur propre espace. Bah, pour moi, c'est un peu ça. Et donc, ce mot, c'est Takiwanga. Takiwatanga, voilà. Takiwatanga. Et pour moi, ça, c'est dans mes propres mots, c'est comme ça que je le définirais. Après, vis-à-vis du DSM-5, je suis pas d'accord. Clairement, je trouve que leur formulation, elle est mal faite. C'est pas un déficit, c'est juste une manière différente de communiquer. Du point de vue de la société, ça peut être très mal compris. Je pense que les gens, de manière générale, imaginent que c'est très... C'est peut-être à cause de cette différence dans la communication que les gens nous voient dans un autre monde, justement. Mais il n'y a pas que ça, parce que moi, je me rends compte que mon autre monde, c'est aussi mes intérêts spécifiques qui décrivent. Alors, des comportements restreints, non, c'est pas restreint. Si on discute avec une personne autiste du sujet qui la passionne, on va se rendre compte qu'elle a une connaissance très étendue du sujet. Donc déjà restreint, bah non. Par exemple, pour moi, ces dernières années, c'était les champignons. Bon, bah voilà, j'adore les champignons. Je suis passionnée par les champignons sous tous ses aspects. Voilà, ça c'est... Ma situation, quoi, c'est mon intérêt spécifique. Après, j'en ai 12 milliards aussi, hein. J'en ai plein d'autres qui m'intéressent à fond. Mais c'est pas restreint, c'est juste inhabituel, je pense, d'avoir une connaissance ou un intérêt aussi marqué pour des choses qui, en général, sont pas associées à quelque chose d'intéressant ou quelque chose de pertinent ou quelque chose de socialement acceptable, quoi.
Et du coup, ça rejoint la question que j'allais te poser après, qui est une question que je pose à chaque fois, qui est comment tu te définis. Est-ce que, parce que là, toi, tu parlais du mot, alors je ne saurais pas le reprononcer, mais le mot en maori.
Ah oui, Takiwatanga.
Takiwatanga. En dehors de ce mot-là, qui n'est pas un mot de la langue française, si tu devais te rattacher à un mot de la langue française pour te définir, est-ce que le mot handicap te correspondrait ? Est-ce que tu mettrais le mot de maladie, de différence ? Parce que tu parlais dans son monde. Quel mot tu utiliserais, un mot qui correspond à la langue française et que les gens qui nous écoutent pourraient comprendre ?
Alors du coup, déjà première chose, c'est Taki Watanga, c'est pas un mot que j'utilise pour moi, parce que bah, déjà c'est pas du tout ma culture, etc. Je vais pas reprendre ce mot. Je trouve juste qu'il est super révélateur en fait de c'est quoi en fait vivre vraiment dans son propre monde. Et sinon, en gros, handicap, moi je l'utilise, mais pas spécifiquement pour mon autisme, juste pour mon anxiété, mes difficultés administratives. Je dis que je suis handicapée, mais c'est pas par rapport à mon autisme. Je dis pas que je suis malade, même s'il y a des moments où je suis malade, mais c'est toujours pas à cause de mon autisme. Je dis clairement que je suis différente, je dis que je suis bizarre, etc. Ça, il n'y a aucun problème, surtout parce que c'est petit à petit une identité dans laquelle je me reconnais, en fait. Mais je pense que le terme le plus pertinent, ce serait la neuroatypie. Enfin, je pense neuroatypique, pour moi, c'est quelque chose qui fait sens parce que du coup, ça dit que je suis différente. J'ai une manière de réfléchir, une manière de penser, une manière d'agir qui est atypique. Et ça me permet aussi d'expliquer aux gens pourquoi bah, j'ai du mal à vivre dans une société qui, elle, est neurotypique et du coup, qui connaît pas et accepte pas et n'est pas forcément à l'écoute aussi des personnes qui sont neuroatypiques. Voilà.
Et du coup, je disais au début de l'émission que là, tu es en pleine procédure de diagnostic. Depuis combien de temps, complètement, est-ce que tu as des doutes sur le fait d'avoir un TSA?
Le doute sur le TSA, je l'ai depuis environ 6-7 ans parce que j'ai discuté. En fait, ma sœur a eu ce doute et quand j'ai à peu près à mon âge, un peu plus tôt que là, j'ai 23 ans, 24 ans, et bah, elle a eu ce doute vers 22 ans. Et en fait, moi, donc c'était il y a 6-7 ans pour moi. Et moi, je me suis dit, bah oui, j'avais jamais pensé à l'autisme, par exemple. J'ai pas énormément creusé la question parce que j'avais d'autres chats à fouetter, notamment une prépa. Mais en fait, j'ai recreusé la question quand je suis arrivée à l'ENS parce que j'ai commencé à avoir des troubles que je remarquais parce que je les avais mis de côté. Et en fait, ces troubles, je leur accordais pas d'explications simples. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que l'autisme, c'était peut-être une explication assez globale de pourquoi j'avais tant de difficultés qui étaient dans tant d'aspects de ma vie. Et voilà, c'est pour ça que je suis en plein dans mes démarches de diagnostic.
Donc là, tu parlais des troubles que tu as eus et qui t'ont laissé penser que tu pouvais correspondre aux critères de l'autisme parce que voilà, les deux critères, enfin les deux caractéristiques que j'ai données en début d'émission, ça définit l'autisme, mais il y a plein de sous-catégories, enfin plus simple, plein de sous-critères. Toi, est-ce qu'il y a des sous-critères qui t'ont vraiment parlé et qui t'ont amené à penser que tu étais autiste?
Alors du coup, le premier indice qui n'est pas forcément un sous-critère qui est mis dans le DSM-5, c'est le fait que j'ai beaucoup discuté avec des amis qui étaient autistes et qui me disaient que, en tout cas, j'avais une forme de neuroatypie, si c'était pas de l'autisme, en tout cas, c'était une forme de neuroatypie et que voilà, eux, de leur point de vue, c'était pertinent, quoi. Du coup, il y avait pas mal d'autres points. C'était notamment de l'angoisse sociale, beaucoup d'angoisse sociale. L'anxiété sociale, elle était liée au fait que souvent j'étais dans des situations où je comprenais pas les règles, les normes sociales, les enjeux, etc. Je comprenais pas aussi. J'avais des troubles de communication. Enfin, c'était plus ou moins lié à mes troubles de communication. Donc là, en termes de sous-critères, c'est en dessous de déficit de communication. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup d'anxiété sociale. J'en ai toujours, mais j'ai appris à la gérer, je pense, un peu mieux. Et puis sinon, les intérêts spécifiques, c'est quand même quelque chose qui est un gros indicateur, quoi.
Mais typiquement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui peuvent se demander quelle est la différence entre des gens qui sont passionnés et des gens qui ont un intérêt spécifique, est-ce que tu saurais expliquer? Sachant que après il y a toute la question de, on parle de TSA et donc de spectre.
Oui.
Et donc la question d'avoir des traits autistiques sans être dans le spectre. Enfin, est-ce que tu aurais une idée de comment répondre un peu à ces gens-là ou...
Alors, je sais pas comment dire, mais je peux passer genre pendant. Là, ça fait plusieurs années que j'ai ce truc avec les champignons et je pense que ça me quittera jamais, par exemple. Ça veut dire que je peux passer vraiment une nuit entière sur mon téléphone à regarder la classification des champignons ou à regarder les effets de chaque champignon que je connais, à faire des comparaisons, des différences, des parallèles entre différents champignons. Je peux récupérer tous les champignons de l'ENS pour essayer de les classifier. Je l'ai déjà fait, j'avoue. Voilà, ce genre de choses. Et ça peut aller assez loin, dans le sens où je peux me lancer dans des discussions sur les champignons que je me rends absolument pas compte que les autres s'en fichent un peu, ou bien je m'en rends compte et puis je continue quand même parce que j'estime que c'est très important. Voilà, c'est quand même accorder une importance assez énorme à quelque chose qui est quand même très spécifique. Et je comprends que les gens soient passionnés par la musique et passent beaucoup de temps à le faire, etc. Et je pense que c'est, ou par d'autres choses, je pense que c'est complètement valide et que c'est bien, etc. Après, je me demande si effectivement, comme tu dis, il n'y a pas un spectre, il n'y a pas des personnes qui sont passionnées, qui ont, des traits qui peuvent être autistiques, qui peuvent même être autistes sans forcément que ce soit pathologique ou qu'il y ait une association à un lien très fort avec ce qu'on nomme habituellement l'autisme. On n'est pas obligé de nommer tous les troubles, on n'est pas obligé de nommer toutes les manières d'exister, toutes les neuroatypies. Moi, je pense que ça fait sens dans le sens où vraiment, je pense que en parallèle de voilà cet autisme, il y a peut-être un peu des troubles d'hyperactivité slash attention. Donc, si j'ai, admettons que j'ai un trouble de l'hyperactivité, bah forcément, ça va encourager mes recherches. Enfin, par exemple, j'y pense, mais genre il y a 2 soirs, j'ai feuilleté tout un dictionnaire d'araméen pour trouver d'où le mot abracadabra pouvait venir, alors que bon, c'est enfin. Moi, j'adore ça, mais je pense que la plupart des gens se disent, mais c'est pas possible de passer autant de, enfin, un moment, on devrait s'ennuyer. Et en fait, bah non. Voilà.
Et donc là, tu parlais du fait que il y a une possibilité que tu aies aussi un TDAH. Donc un TDAH, c'est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as eu un diagnostic? Est-ce que tu es passé par d'autres diagnostics, potentiellement des diagnostics d'anxiété ou des choses comme ça, avant ton réflexion là sur l'autisme?
Ouais, alors TDAH, non, clairement, je suspecte vaguement, j'ai pas forcément besoin, enfin actuellement je ressens pas le besoin de faire un diagnostic pour ça. Souvent que, enfin souvent l'autisme et le TDAH, ça va pas mal ensemble, donc voilà. Mais par contre, j'ai eu des demi-diagnostics, donc ça veut dire des diagnostics posés par des médecins de santé. En attendant d'en savoir plus. En général, c'est des médecins de santé, je les ai fui au bout d'un moment ou d'un autre, donc bah, il se trouve que c'est pas vraiment des diagnostics posés, mais je me fais traiter pour anxiété et dépression, actuellement, encore. Ça fait 3 ans. Donc, clairement, je pense qu'on peut dire que je suis diagnostiquée avec. Enfin, j'ai eu une période avec un état dépressif majeur, je suis diagnostiquée avec de l'anxiété parce que je prends les médicaments qui me soignent vis-à-vis de ça et ça marche. Voilà.
Et donc là, actuellement, tu es en train de faire tes démarches par rapport à, enfin, pour obtenir un diagnostic. Est-ce que tu saurais dire s'il y a un élément déclencheur qui t'a fait avoir envie ou besoin d'obtenir ce diagnostic-là?
L'élément déclencheur, ça va être le fait que j'ai une personne proche de moi qui a reçu une confirmation de son diagnostic récemment. Ça, c'est pas salvateur, hein, c'est pas non plus voilà, mais ça me fait me dire que ce serait pertinent pour moi de voir si bah, ma suspicion d'autodiagnostic est pertinente. Et oui, principalement, c'est mes difficultés administratives actuellement, enfin qui traînent depuis que je suis rentrée à l'ENS, qui font que c'est vrai que les difficultés administratives sont souvent associées à de l'autisme. Enfin, l'autisme est souvent associé à des difficultés administratives. Et moi, ça me demande énormément d'énergie actuellement. Donc, c'est un des handicaps que j'ai. Et du coup, je pense que potentiellement, dans le futur, si j'arrive à faire enfin, si ce diagnostic vient à bout et que je suis bel et bien officiellement autiste, peut-être que je pourrais faire valoir ce trouble, enfin qui n'est pas un trouble pour moi, mais admettons, auprès des administrations X et Y, pour mieux vivre en fait les démarches administratives de manière générale.
Et donc là, juste avant, tu parlais du fait que tu as eu des sortes de semi-diagnostics en passant par des professionnels de santé. Là, pour obtenir un diagnostic complet, on va dire, par quelle démarche tu dois passer et tu vas passer?
Du coup, il y a d'abord des entretiens avec une personne spécialisée dans l'autisme. Cette personne spécialisée est psychiatre, évidemment, parce qu'on ne peut pas poser un diagnostic si on n'est pas psychiatre. En tout cas, un diagnostic du trouble de l'autisme. Voilà, donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est donc là on est censé revenir sur nos problèmes. Ça c'est pour le dans le cadre de un diagnostic de l'adulte, de l'autisme de l'adulte. Dans le cas où le psychiatre pense que c'est pertinent, on continue les démarches, on continue donc les entretiens et on fait un entretien. Enfin, plusieurs entretiens avec les parents pour revenir sur l'enfance. En général, on est obligé d'y passer. Il y a toujours des moments où bah, potentiellement les parents sont plus là ou bien les parents sont opposés à ce diagnostic où on va pas pouvoir faire cet entretien, mais en fait, il est entre guillemets assez important parce que l'autisme, on le voit beaucoup. Pendant l'enfance, pendant l'adolescence, et en fait, à l'âge adulte, en général, il a tendance à être moins visible parce que justement, on trouve des moyens de s'adapter, et surtout dans le cas en fait des autismes dits de haut niveau, donc type, alors ce qu'on dit Asperger, mais maintenant ça a changé, etc. Mais tous les troubles qui sont sur le spectre de l'autisme et qui n'ont pas de déficience mentale, et je sais plus comment on dit, des déficiences motrices et bon, j'ai un peu oublié le terme exact. Voilà. Et donc, en général, en complément de ces entretiens, on a un test de QI pour vérifier qu'il n'y a pas justement cette déficience mentale ou pour attester qu'il y a un autisme de haut niveau intellectuel, à haut quotient intellectuel. Voilà.
Et c'est toujours sur la question du diagnostic. Est-ce que tu as l'impression que ton identité de genre a eu ou a actuellement un impact sur le processus de diagnostic, enfin, typiquement avec la croyance de certains professionnels, par exemple, de santé qui considèrent qu'on ne peut pas vraiment être une femme et être autiste.
Moi, j'ai jamais croisé de personne qui me disait « Vous ne pouvez pas être autiste parce que vous êtes une femme ». Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un certain biais dans les... Alors, l'autisme est vachement moins diagnostiqué chez les femmes parce que les formes d'autisme chez les femmes sont un peu différentes. Par exemple, on a des intérêts spécifiques qui sont pas forcément centrés autour des mathématiques ou des dinosaures, etc. ou des voitures ou je sais pas quoi, enfin bref, mais qui peuvent être centrés autour des animaux mignons, d'habits particuliers. Voilà, des trucs qui sont plus associés à des traits féminins, mais aussi qui sont plus volontiers acceptés par la société. Donc, ils se voient moins. Donc, on diagnostique, les médecins étant un membre de la société, le voient moins. Ceci dit, moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où le genre, c'était pas quelque chose qui était très présent. Donc, les intérêts spécifiques ou les attitudes que je vais avoir sont pas très féminins dans leurs caractéristiques autistiques. Ceci dit, bon, c'est vrai que j'adore les chats mignons, voilà. Mais j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir toujours eu une identité de genre assez à genre et assez moins marquée. Donc, du point de vue des impacts sur la psychologie que l'enfant va construire. Voilà, c'est pas très marqué par le genre. Par contre, clairement, j'ai été assignée femme à la naissance, du coup, j'ai quand même eu une association dans des groupes de femmes à des comportements de femmes, même involontairement, parce que moi je ne comprenais pas le genre. Mais j'ai eu quand même plus ou moins cette forme de socialisation féminine. Est-ce que c'est pertinent? Enfin, dans mon rapport au médecin, je sais pas. Dans mon rapport à moi-même, ça m'a permis de comprendre qu'il y avait cette distinction et cette erreur enfin, cette absence de diagnostic des femmes, ça m'a permis aussi de me sentir plus légitime, entre guillemets. Parce que je me suis dit, bon, bah, si on n'arrive pas à me diagnostiquer, si on m'a jamais envoyé de ce côté-là chercher les réponses à mes questions, à mes troubles de dépression et d'anxiété, si on m'a jamais dirigé vers un professionnel des questions de spectre autistique et tout, c'est aussi peut-être parce que j'ai cette étiquette femme sur mon front. Et pour moi, personnellement, par contre, ça m'a beaucoup aidée. Les questions que je me suis posées sur mon identité de genre qui ont émergé au milieu, à la fin de ma prépa, elles m'ont permis aussi de mieux comprendre, en fait, précisément, c'était quoi ce que je vivais de l'autisme, et notamment, il y a des formes de genre qui sont associées aux neuroatypiques qu'on peut vivre. Et moi, dans mon cas, je me sens complètement à genre, et complètement gender fluid à genre, bref, on s'en fout. Y a une explication un peu à ça, qui est que les personnes autistes, en tout cas moi, peuvent avoir du mal à comprendre les normes sociales, et le genre, ça fait partie des normes sociales. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu des difficultés à comprendre c'était quoi une femme, c'était quoi un homme, pourquoi on avait besoin de ça, qu'est-ce que ça voulait dire, pourquoi les gens se sentaient hommes ou se sentaient femmes, pourquoi les femmes faisaient des trucs de femmes. J'ai jamais compris en étant gosse ça, et je le comprends toujours pas vraiment, à vrai dire. Et du coup, ça m'a fait comprendre aussi que c'était aussi peut-être lié à mon autisme, en fait, que... je comprenais pas le genre, en fait, tout simplement. C'était pas quelque chose que je comprenais très bien. Et maintenant, je le comprenais pas émotionnellement. Maintenant, je le comprends théoriquement. Et même, des fois, j'arrive à sentir, OK, ah, là, je me sens de cette identité de genre, là. Et ça me fait super bizarre, parce que j'ai pas l'habitude, mais ça m'arrive de temps en temps. Voilà.
De ton rapport aux gens, tu disais que tu étais dans un cercle amical avec des personnes autistes ou en tout cas neuroatypiques, et donc que c'est aussi ça qui t'a été entamé tes démarches pour un diagnostic. Mais est-ce que en dehors de ce groupe là tu dis aux gens que tu te considères comme autiste, ou en tout cas que tu fais cette démarche là pour obtenir ce diagnostic?
Ouais, je le dis assez souvent, et d'ailleurs je le dis souvent quand je me retrouve dans des situations socialement très gênante, à cause notamment, entre guillemets, de mon trouble. Donc il y a souvent des moments, alors j'aime pas cette phrase, donc je vais refaire ma phrase. Il y a souvent des moments où effectivement je me retrouve à dire que je suis autiste, et à le dire aux gens, parce que il y a eu une situation sociale qui peut être gênante ou drôle ou décalée, quoi. Parce que je suis autiste. Et du coup, souvent, je dis aux gens, non, mais là, c'est juste que, voilà, j'ai rien compris à ce que t'as dit parce que je suis autiste. Et donc, je lâche l'info un peu de temps en temps comme ça.
Et est-ce que les gens te croient quand tu le dis?
Alors, quand je le dis sur le ton de l'humour, en général, c'est accepté. Il y a des rares moments où je me confie, où je dis que voilà, j'ai fait un autodiag autiste et que je suis en train de me poser la question de machin et trucs mûches, et que j'ai pris contact avec un psychiatre qui est spécialisé machin, et que je suis en train de faire mes démarches, voilà. Les rares fois où je me confie à des personnes qui sont pas sensibles à ces questions, en général, la réponse que j'ai, c'est « mais non, t'es pas autiste ». Et donc moi, en général, ce que je réponds, parce que ça me met pas très bien, en général. Donc ce que je réponds, c'est que je dis « tu sais pas de quoi tu parles. Est-ce que t'es psychiatre ? Non, je crois pas. Est-ce que t'es une personne autiste ? Non, je crois pas. Donc en fait, je vais pas te faire confiance sur ton propos. » Voilà.
Et je me demandais, donc là l'idée de cette émission à la base, c'est de faire des choses sur le handicap invisible. Est-ce que tu dirais que ton TSA, donc ton trouble du spectre autistique, est invisible aux yeux des autres? Parce que dans les sous-critères du DSM, il y a aussi la question des stéréotypies. Donc si je ne me trompe pas, c'est les mouvements un peu répétés que certaines personnes font. On appelle ça stimer aussi.
Je sais pas.
Il me semble que c'est ça le terme utilisé, mais donc avec des mouvements un peu répétitifs. Mm-hmm. Est-ce que c'est des choses que tu fais, et est-ce que parce que tu fais ces mouvements-là ou ces choses-là, tu dirais que ton handicap est un peu visible ou en fait pas du tout?
Je pense que mon handicap n'est pas visible de cette manière-là. Je crois pas, enfin, je pense que j'ai des comportements répétitifs, ce que tu dis estimer, ou je sais pas. Mais moi-même, je ne me rends pas compte, et je pense que les gens en général ne le voient pas, ne le remarquent pas. Par contre, je pense que les gens voient que je suis bizarre. Donc, ils ne le voient pas forcément dans mes gestes, dans mes comportements, dans mes paroles, mais ils le voient dans mon allure générale. Ils le voient dans ma manière de me comporter. Sur le long terme, je pense. Quand on me croise, je suis quasi persuadée que ça ne se voit pas, hein. Je pense que je passe. Justement, je fais beaucoup d'efforts pour être invisible quand j'ai besoin juste de. Mais en fait, il suffirait de discuter pendant 1 heure avec moi sur un sujet qui m'intéresse ou de discuter de. Même pas forcément sur un sujet qui m'intéresse. Et on comprend qu'il y a un truc un peu chelou. Après, je fais des efforts. Donc, je fais des efforts le plus possible pour pas que ça se voie. Donc, en fait, moi-même, je le rends invisible. Mais, je suis persuadée que la raison pour laquelle mes amis autistes m'ont dit qu'il y avait peut-être une aura atypique qui ressemblait à de l'autisme là-dedans, et bah, c'est parce que c'est pas invisible et qu'en fait, dans mon comportement habituel, dans mon comportement de tous les jours. Bah, j'ai un comportement qui peut être étrange, qui peut être légèrement inhabituel par rapport à ce qu'on voit d'habitude.
Et je voulais aussi revenir sur l'impact et le lien avec ta scolarité, parce que actuellement tu es étudiant. Donc, et du coup, je me demandais, est-ce que, alors même que tu t'intéresses aux questions d'autisme et que tu te poses la question par rapport à toi-même, ton autisme a eu un impact sur certaines de tes compétences, de tes capacités. Je sais pas, je pense à la question de la concentration par exemple.
Ouais, bah comme je disais, je pense que j'ai un petit trouble de l'attention. Donc ce qui fait que en fait pour me concentrer longtemps pendant 2 heures, il faut qu'il y ait un rythme hyper soutenu. C'est simple. J'arrive à garder ce rythme-là quand je vous fais mes recherches toute seule toute la nuit sur mon téléphone sur les neurotransmetteurs et la consommation de champignons, j'arrive à le faire. Mais quand je suis en cours et que le prof tourne en rond et nous explique pendant 3 quarts d'heure que en fait l'entéléchie de machin c'est l'entéléchie seconde est distincte de l'entéléchie première par machin, moi une fois que j'ai compris ce qu'il disait, ça me pète les couilles. Enfin, je veux pas être. Voilà. Typiquement, dans les comportements répétitifs, il y a aussi le fait de prononcer souvent des jurons. Je dis souvent putain, sans le vouloir, je dis souvent pète les couilles. Je suis désolée pour ça. Oui, mon trouble de l'attention. Du coup, j'ai tendance à m'ennuyer assez rapidement en cours une fois que j'ai compris le point du cours. Ce qui fait que mon attention commence à baisser parce qu'il n'y a pas de stimulation. Donc ça, c'est un truc qui m'arrive assez fréquemment, mais je ne sais pas comment y répondre. C'est-à-dire que je n'ai pas de solution. J'en ai discuté un peu avec Thibault Chambrière, qui a la mission handicap de l'ENS, mais il n'y a pas vraiment de solution à ça. Il faut que je trouve une manière de stimuler intellectuellement mon cerveau sans que pour autant il parte dans des questions qui sont complètement orthogonales aux questions du cours. Et donc ça impacte plus ou moins ma capacité à suivre des cours. Je me débrouille. Et sinon, il y a le fait que, par exemple, moi j'ai besoin d'être très confortable quand je travaille. Je déteste les chaises. Je me débrouille tout le temps pour m'asseoir de la pire manière possible sur une chaise pour être bien. Alors, j'ai besoin d'avoir chaud aussi, donc je me colle contre les radiateurs en hiver. Voilà. J'ai plein de comportements comme ça qui font que je bouge dans tous les sens en fait en cours. Voilà, donc ça c'est des petits trucs. Maintenant je me l'autorise de bouger dans tous les sens en cours, mais c'est des petits trucs, c'est vrai, qui posaient problème dans ma scolarité, qui m'ont toujours posé problème.
Et est-ce que tu dirais que le fait d'avoir des doutes et de t'auto-diagnostiquer comme autiste, ça a changé quelque chose dans ta scolarité ou pas du tout?
Ça a changé quelque chose, mais pas forcément dans le bon sens. Clairement, l'autisme, le fait que je vois mes amis autistes autour de moi, etc., ça me confirme le fait que je suis pas dans une structure qui est adaptée du tout, du tout, du tout à moi. Ça m'angoisse énormément. Donc déjà j'avais de l'angoisse sociale de base, là j'ai de l'angoisse de je suis face à une structure qui ne me veut pas du bien activement. Du coup qui me fait du mal. Donc je fais tout pour être en relation saine avec cette structure. Ce qui est très compliqué parce que elle ne comprend pas la neuroatypie, parce qu'elle est construite par des personnes neurotypiques dans un cadre neurotypique qui favorise les esprits neurotypiques. Donc moi ça m'angoisse clairement énormément. Et aussi oui, je me suis rendu compte à mes risques et périls que l'ENS, mais pas l'ENS directement, en fait, toutes les formes d'administration qui étaient justement structurées de manière neurotypique, elles étaient intrinsèquement psychophobes. Donc ça, sachant ça, et sachant mon autisme, je ne peux pas aborder le fait que je suis autiste à l'ENS et avec ma scolarité sainement, en fait, sereinement. C'est pas possible, donc ça m'angoisse. Donc j'essaye de gérer mon angoisse vis-à-vis de ça.
Oui, donc ça veut dire que concrètement, à partir du moment où tu auras le diagnostic, tu penses pas en parler à l'administration de l'ENS ?
Je sais pas si j'aurai mon diagnostic avant de partir de l'ENS, j'espère. Parce que si je l'ai, bah, je vais leur en parler. Mais je pense pas non plus que parler de mon diagnostic à l'ENS, c'est quelque chose qui va changer quoi que ce soit. Donc moi je joue carte blanche, je suis le plus franche possible avec l'administration au niveau de mes troubles, parce que je pense que c'est la seule manière d'espérer que ça se passe bien en fait. Par contre, mon espoir, c'est juste un espoir. Actuellement, je suis quasi persuadée que même si j'ai cet espoir-là, si je partage mon diagnostic, ils vont me dire d'accord, mais ça c'est des problèmes de santé et nous n'y pouvons rien. Voilà. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que je dis que c'est psychophobe. Parce que en fait, c'est pas parce que c'est un problème de santé que vous n'y pouvez rien. Les problèmes de santé, les troubles de santé, c'est aussi des choses qui ont des enjeux directs en fait dans tous les aspects de la vie. Et notamment, le travail d'accompagnement handicap devrait être vraiment largement plus mieux compris et mieux diffusé au sein de l'ENS, parce que c'est décisif. Et moi, je me rends compte que je suis jamais comprise des personnes de l'administration quand je dis j'ai un problème, j'ai tel problème, j'ai telle angoisse, je suis face à un mur. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas de quoi je parle. Donc même si j'arrive avec mon diagnostic, ils vont me dire, bon, très bien, alors on va le prendre en note, et puis on n'y peut rien. Et prenez-le en note, vous n'y pouvez rien, moi je vais travailler pour avoir mon diplôme et me casser. Fin.
Et parce que, imaginons, dans la meilleure des solutions, ils changent d'avis et ils t'écoutent, ils décident à faire quelque chose, est-ce qu'il y a des aménagements qui pourraient te soulager, par exemple sur la question de la concentration, avoir des cours à distance, ou souvent avec l'autisme on parle aussi d'une hypersensibilité sensorielle, je sais qu'il y a pas mal de personnes autistes qui ont des casques anti-bruit et que c'est quelque chose qui peut aider, est-ce que c'est des choses comme ça qui pourraient t'aider si jamais l'administration se décidait à t'écouter?
Alors, l'administration, elle va pas décider là-dessus. Ça, c'est pas son rôle. C'est le rôle de la mission handicap. La mission handicap le fait. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire que concrètement, on m'apporte de l'aide. Le fait est que on ne reconnaît pas mon handicap. C'est juste pour ça que je disais ça. Donc, on m'apporte de l'aide. Il n'y a pas de problème. La mission handicap, c'est Thibaut Chambrière. C'est une personne qui va vraiment chercher à nous accompagner, etc. Ce que j'ai noté, moi, personnellement, dans l'impact que l'autisme peut avoir dans ma vie, c'est essentiellement des trucs qui sont pas trop, qui sont difficilement gérables. Par exemple, sur l'attention, alors moi, ce que je mets en place, qui nécessite quasiment à peine l'aide de la mission handicap, mais la mission handicap me permet de me sentir légitime dans ma demande, c'est d'enregistrer le cours. Donc j'enregistre le cours, comme ça je sais que je peux le réécouter. J'ai pas besoin d'être full attentif pendant tout le cours. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Après, sinon, concrètement, la mission handicap, ce qu'elle me permet, c'est d'avoir un accompagnement dans la communication. Et pour moi, c'est ça le plus dur, parce que mon anxiété vis-à-vis de l'administration, elle est décuplée en fait par mes troubles communicationnels, notamment par le fait que pendant longtemps, j'ai beaucoup échangé par mail, et en fait, les mails, c'est quelque chose qui m'angoisse terriblement. Et le fait d'avoir rencontré, par exemple, ma gestionnaire de scolarité avec Thibault Chambriard pendant une heure à peu près, enfin même pas moins d'une heure en fait, et après j'ai continué à discuter avec la gestionnaire de scolarité, ça m'a mis dans une relation de confiance. Et donc ça c'est très important, enfin en tout cas moi dans mon véhicule l'autisme c'est très important, c'est-à-dire que je fais très difficilement confiance et dès qu'on me fait un mauvais coup, même si c'est pas du tout volontairement, je vais le vivre très mal et je vais être traumatisée en fait par cette relation sociale. Donc le but c'est d'entrer en relation de confiance avec les personnes qui font de tous les jours, qui travaillent à faire en sorte que la structure fonctionne, donc les administratifs. Voilà, c'est essentiellement ça qui m'aide vraiment concrètement. Et les profs aussi. Les profs, enfin le fait d'entrer en communication avec les profs, de dire aux profs, voilà, j'ai ça, donc ça fait ça, ça rend difficile le fait de suivre le cours, est-ce que je peux enregistrer ? Maintenant, je me sens beaucoup plus légitime, vu que j'en ai discuté avec Thibault Chambriard, voilà.
Et est-ce que, de manière générale, tu dirais que tu as l'impression que, du coup, avoir de l'autisme, ça t'a fait renoncer à certains rêves, certains buts y compris scolairement, mais pas que.
Non, parce que moi, je le vis plus dans le sens complètement contraire. Pour moi, l'autisme, c'est quelque chose qui m'a permis justement de construire un espace autour de moi qui me convenait et qui était idéal en fait pour moi et que en fait, même politiquement, que je trouve hyper important. Donc ça, c'est enfin parallèle à l'ENS, hein, évidemment. J'ai construit un labo de recherche entre étudiants et chercheurs, jeunes chercheurs, avec des amis, plus ou moins autistes d'ailleurs. et ça, typiquement, pour moi, c'est salvateur et c'est l'autisme aussi qui m'a permis aussi. De mon point de vue, c'est une partie tellement intégrante de moi que c'est aussi ce qui m'aide tous les jours à faire des choses absolument géniales. Et oui, passer la nuit. À lire des trucs sur les champignons, c'est pas super sain parce que du coup je dors pas, mais quand même, pour moi c'est une richesse assez énorme. Forcément au niveau de la scolarité, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. En même temps, je serais pas dans mes études actuellement, je serais pas au point où j'en suis actuellement, donc à l'ENS de Lyon quand même, waouh! En M2 de philo, en train d'écrire des mémoires qui sont en fait des thèses quasiment, je serais pas là en fait si j'avais pas l'autisme, si j'avais pas cette part de moi qui est tellement importante quoi.
Et enfin, je me pose une dernière question par rapport à ta scolarité, c'est que quand on est étudiant ou étudiante, souvent il y a quand même une vie qui va avec des soirées, avec tout le milieu associatif, etc. Est-ce que ça a un impact sur cette vie-là?
Oui, parce que globalement je suis un peu un chat en fait, dans le sens où je suis un peu solitaire, je reste chez moi, je reste au chaud, puis après des fois je sors et puis je m'amuse et puis après je re-rentre. Mais du coup quand je sors et que je m'amuse, je vais pas avec les autres chats quoi, je me mélange pas. J'ai un peu du mal avec ça parce que en fait pour être dans un cercle social où je me sens bien, et je vais devoir faire plein d'efforts et... Et notamment, en fait, la première année à l'ENS, c'était très chouette. Hein. J'étais entourée, j'ai eu justement cette vie associative. Mais à part que je suis tombée en dépression, j'ai eu beaucoup de difficultés à rester toujours dans le même endroit. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vis à la fois dans mon travail et à la fois dans ma vie personnelle. J'ai besoin en fait de beaucoup de diversité, de beaucoup de changements dans ma vie, dans mon entourage, dans mes environnements. J'ai beaucoup j'ai besoin de beaucoup de stimulation mais différentes. Parce que sinon, encore une fois, je m'ennuie. C'est toujours le même problème. Et du coup, c'est vrai que cette vie associative, moi, je trouve que bah, l'autisme ou cette vie étudiante, l'autisme, ça fait que en fait, j'ai tendance à pas énormément m'engager dedans. En tout cas, c'est pas, en tout cas, pas à l'ENS, parce que j'ai besoin, je pense, de me dire, l'ENS, c'est l'espace du travail, et c'est l'espace où je rencontre aussi des personnes absolument passionnantes du point de vue militant, du point de vue associatif, du point de vue même humain, des moments que je peux passer à discuter avec des personnes à l'ENS. Donc je fais quand même un peu cette vie, mais en fait j'ai tellement besoin que ma vie elle soit partout, dans plein d'endroits différents, que bah, en fait là par exemple cette année, maintenant je suis en colocation à Projet Solidaire, donc on fait des choses ensemble, et ça me permet de toucher à tout. Et de toujours avoir un truc à faire, de toujours avoir un truc pour me changer l'esprit, pour faire un truc qui me plaît, pour évacuer l'énergie que j'ai en trop, ou bien tout simplement rester dans ma chambre et dormir pendant 24 heures, parce que je peux, enfin dormir, lire, ne rien faire. Voilà, pour moi c'est hyper important justement cette diversité. Donc, aussi parce que je pense que c'est lié à pas mal d'anxiété sociale. Si je reste tout le temps dans le même groupe, dans le même environnement social, ça risque de m'angoisser parce que j'ai peur du moindre pas de côté. J'ai peur de la moindre erreur, de la moindre incompréhension. Et voilà.
Et enfin, est-ce que tu aurais une recommandation d'ouvrage, que ce soit littéraire, filmographique, musical ou peu importe, soit qui t'a permis de mieux accepter, de mieux comprendre ta différence, donc ton autisme, soit simplement une œuvre que t'apprécies? Et il peut y en avoir plusieurs.
Du coup, moi, l'œuvre à laquelle j'ai pensé, c'était un film que j'ai revu il y a pas longtemps, en septembre, je crois, qui s'appelle A Beautiful Mind, donc Un homme d'exception, qui est un film de Howard sur la vie de Nash. Et en fait, je me suis énormément reconnue, je vais pas spoiler. Mais je me suis énormément, alors c'est pas du tout une personne autiste, hein, mais je me suis énormément reconnue dans le personnage de Nash et dans sa vie qui était narrée. Et le scénario est très bien fait et le film est plutôt très bien tourné et très bien joué, je trouve. Enfin, je suis pas experte en la matière, mais quand même. Et cette position de pas forcément de paria, mais de personne étrange, en fait, que peut être Nash, que peut avoir Nash, bah, elle m'a parlé énormément.
Merci beaucoup, Yona, pour avoir répondu à mes questions. Chers auditeurs et auditrices, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. C'était Indifférence, l'émission consacrée au handicap invisible, diffusée sur Transistor, produite par Marie Brunner.